Le festival de Cannes s'est clôturé le week-end dernier et nous, dans l'heure bleue, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer à Cannes Marco Bellocchio. Marco Bellocchio, c'est ce cinéaste italien qui, depuis Les Poings dans les Poches, Fou Adélier, Buongiorno Notte, Le Traître, etc., a une cinématographie absolument extraordinaire. Il était venu à Cannes l'an dernier pour y recevoir une palme d'honneur. Cette année, il est venu à Cannes pour présenter une série, Esterno Notte, qui revient sur les tourments et les difficultés de l'Italie au moment de l'enlèvement de Aldo Moro. Donc ce soir, spécial Marco Bellocchio, mais nous allons commencer comme chaque soir en musique avec les Pink Floyd, qu'on retrouve d'ailleurs dans la bande-son de Buongiorno Notte.
Target for faraway laughter. Come on, you.
voudrais rappeler à nos auditeurs, qui je pense le savent, que vous avez commencé à faire du cinéma en 1965, c'est-à-dire très très jeune, avec les poings dans les poches, et ensuite il y a eu toute une série de films qui sont restés comme des, à la fois comme des signaux révolutionnaires dans notre modernité, et en même temps comme des leçons de cinématographie au niveau de l'audace esthétique que vous avez eue dès la fin des années 60. Vous n'hésitez pas à parler de sujets politiques frontalement, vous n'hésitez pas non plus à parler de votre propre parcours autobiographique, à inclure aussi dans vos films des sujets historiques, comme la première maîtresse de Benito Mussolini, qui a eu un fils avec lui, ce film s'intitulait Vincere. Mais je note que dans tous vos films, il y a justement l'importance du rêve. Rêvez-vous beaucoup, Marco Bellocchio?
Bonsoir. Oui, comme tout le monde, je rêve, mais souvent je ne me rappelle pas des rêves. Mais je pense que les rêves sont un langage, une possibilité de découvrir des choses très importantes, mais il faut être capable de les interpréter. Pour ça existent les psychiatriques et les psychoanalystes. Et si tu comprends la vie des rêves, tu peux comprendre beaucoup de choses de toi-même. Oui, oui, oui.
Mais vous, n'avez-vous pas justement choisi de faire du cinéma après avoir hésité à être peintre pour pouvoir explorer justement à la fois l'inconscient collectif et aussi votre propre inconscient, Marco Bellocchio?
Oui, avant tout mon inconscient personnel et indirectement aussi l'inconscient collectif, mais sûrement l'art, je dis une banalité, c'est quelque chose qui ne représente pas la réalité, mais qui c'est une représentation de quelque chose qui regarde l'imagination et aussi les rêves. Je ne représente pas souvent les rêves directement, mais des contenus oniriques, disons des images oniriques qui font référence aux rêves, mais qui sont directement en rapport avec l'histoire qu'on utilise, comme par exemple de Buongiorno Notte. Il y avait des libertés que je suis pris, qui pouvaient être des rêves ou pas, mais qui regardaient directement les rapports entre les personnages.
Alors votre style, Marco Bellocchio, on peut dire que votre style a commencé à surgir dans l'histoire du cinéma avec justement les poings dans les poches et qui a tout de suite été salué par les plus grands des cinéastes. Je pense notamment à Pasolini, Jean-Luc Godard, tout le monde a salué ce premier acte cinématographique. C'était une qualité de noir et blanc extraordinaire, c'était une beauté du cadre, c'était une direction d'acteur. Et c'était la brûlure intérieure et la différence entre personne et personnage.
Oui. Non, mais le premier film est toujours quelque chose qui on le fait avec une certaine liberté, une certaine facilité. Je n'avais pas pensé à toutes les choses que vous avez dites sont arrivées après, mais il y avait une histoire très simple, un peu incroyable. Mais je sentais que de le faire, parce que je connaissais les rapports entre les humains, entre les personnages de cette étrange histoire. Et alors, disons, c'est le film le plus facile que je fais. Parce que, comme vous savez, le premier livre, tu n'as aucune... Tu n'es pas obligé, tu n'as pas aucune position à défendre. Et alors cette liberté, c'est quelque chose unique, irrépétible, qui peut aller vers une œuvre de qualité ou pas.
Les yeux, la bouche, le saut dans le vide, le diable au corps, qui a été une sorte de brûlot qui avait été accueilli avec beaucoup d'injures et d'insultes par un public ô combien catholique. Votre parcours cinématographique, Marco Bellocchio, est ponctué sans arrêt de scandales qui manifestement accompagne une sorte de bien-pensance d'une partie du public italien, mais vous continuez à faire des films qui à la fois nous alertent, nous font réfléchir, nous font partir aussi dans beaucoup d'émotions à cause du désir, parce que le désir et le corps sont aussi un de vos sujets principaux. Vos bandes-sons de vos films sont ponctués à la fois de nostalgie, de sentimentalité, dans le bon sens du terme. Et vous avez toujours, quel que soit le film, quelle que soit la gravité du film, le talent pour filmer un visage de femme. Qu'est-ce qu'un visage de femme, Marco Bellocchio, pour vous?
Je ne sais pas. C'est la question la plus difficile. Oui, mais...
Danouk Aimé, en passant par Bérénice Bejo, si on parcourt le spectre...
Non, mais sûrement, c'est un intérêt vers la femme indiscutible. Ce mystère, cette capacité de ne comprendre rien d'elle, mais en même temps d'être attiré pour la décrire. C'est quelque chose qui n'est pas n'est pas quelque chose de calculé, disons, je suis attiré par le mystère, je suis attiré par ce que je ne comprends pas, je comprends seulement une partie, et c'est la femme, naturellement, pour moi. Je n'ai pas la prétention de comprendre d'une manière simple les hommes, mais les hommes, il y a une familiarité aussi quand on travaille avec sur le set avec les hommes, on a toujours des choses à lui dire qui regardent ma vie, ma manière de bouger, tandis que souvent avec les femmes, il y a une tu n'es pas capable de dire, parce que tu ne peux pas mentir. Tu ne sais pas quoi dire. Tu as une aspiration qu'elle fait quelque chose, mais les mots souvent sont difficiles. Mais ce mystère, cette incapacité, questa ignoranza, come
cette
si dice?
Ignoranza.
Questa ignoranza è attraente, ecco, e va affrontata.
M'attire beaucoup et il faut l'affronter. Mm.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter. Nous allons écouter le choix musical de Marco Bellocchio, un choix musical tiré de son nouveau film Esterno Notte, présenté ici au Festival de Cannes, un film qui dure 5 heures, qui va être présenté à la RAI en Italie très prochainement et qu'on va pouvoir découvrir à la rentrée sur Arte. Nous écoutons d'abord Porque te vas de Jeannette.
Pour la folie, pour la lumière, pour tes pays, peuple de rois.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous venez d'entendre le choix musical de Marco Bellocchio, Porquet et Vase de Jeannette. Et nous l'avons écouté dans un entretien de 2016. Nous le retrouvons aujourd'hui à Cannes. Merci Marco d'être avec nous pour parler de cet événement. Événement triple, je crois, à mes yeux, puisque pour la première fois, le Festival de Cannes montre une série dans une grande salle et dans une compétition officielle. On sait que la direction du Festival de Cannes était assez hostile aux histoires de séries, de plateformes, et que la concurrence est très grande entre, justement, soi-disant, le cinéma d'auteur, entre guillemets, et le cinéma produit par les plateformes. Vous qui êtes un maître du cinéma, et ce depuis un bon demi-siècle, pensez-vous que cette concurrence existe vraiment, Marco ?
Je ne pense pas. Dans le sens que il y a des choix à faire que les festivals font. Entre autres, moi, je remercie beaucoup d'avoir invité mon film, qui n'est pas un concours. Il a été présenté ensemble. Il y a un précédent, La Meglio Gioventù, qui fut présenté il y a 10 ans à Cannes, au Festival de Cannes. Il est clair que je n'ai pas pensé à la série, j'ai pensé à un film, dans le sens que l'histoire, le récit, les événements que je voulais raconter avaient une extension de 6 heures presque. Et donc c'était le producteur qui a décidé un format de série. Mais moi, je l'ai fait, je l'ai écrit comme un film très long que naturellement tenait en compte dans récit ce que je voulais raconter, beaucoup d'histoires parallèles et qu'il fallait beaucoup de temps.
Donc l'esthétique, en tout cas, je peux en témoigner, après avoir vu les 5 heures de votre film, c'est vrai que j'ai pas envie de dire série, Marco Bellocchio, après avoir vu votre film, effectivement, l'esthétique est celle d'un film, la continuité scénaristique est celle d'un film. Je pense que l'équipe qui a tourné le film était aussi celle que requiert une équipe de cinéma. Au fond, qu'est-ce qui change, sauf avoir le temps de déployer une complexité du monde pour vous, Marco?
Oui, exactement, oui.
C'est un peu le contre-champ de Buongiorno Notte. Donc, il m'avait engagé, il m'avait attiré. Ils m'ont dit de raconter les personnages protagonistes de cette tragédie, qui sont le ministre de des Affaires intérieures Cossiga, la femme de Monsieur Aldo Moro, le pape Paul VI et un couple de terroristes aussi. Cette structure. Le film long sera aussi distribué en Italie, dans deux parties. Il est difficile de proposer aux spectateurs un film de presque 6 heures. C'est pour ça qu'on a fait la série. C'est normal.
Alors Marco Bellocchio, vous êtes un cinéaste qui avait des idées en tête et vous les concrétisez, et quelquefois en prenant beaucoup de temps. Vous venez de parler de Buongiorno Notte, c'est ce film que vous avez tourné il y a maintenant plus de 20 ans, que j'ai revu à l'occasion justement de votre nouveau film, Esterno Notte. Ça fabrique une sorte de diptyque, une sorte de continuité historico-politique. Alors dans ce premier film, Marco Bellocchio, vous qui êtes un cinéaste engagé, je crois qu'on peut le dire, vous avez pris le parti d'une des terroristes, des brigadistes, qui avait hébergé Aldo Moro, et vous avez raconté l'histoire de cette tragédie politique, mais aussi personnelle, et de cette faillite de la démocratie du point de vue d'une terroriste. Pourquoi, à l'époque, vous avez fait ça? Et j'imagine que ce point de vue-là n'a pas dû être partagé par bon nombre de citoyens italiens à l'époque de la sortie du film.
Non.
C'était un choix de fantaisie. C'était un peu la pensée d'une terroriste qui gardait dans sa propre maison le prisonnier. Ici, l'idée de la liberté née dans le mémorial de Aldo Moro. Et donc, où il remercie les terroristes, les brigades rouges. Là, c'est mystérieux, c'est un événement mystérieux, ce remerciement. Il y a un moment quand il y avait la possibilité que Moro aurait pu être libéré. Moi, j'ai décidé de commencer la série avec cette libération par réelle de Aldo Moro, qui est un principe qui part d'un fait réel, il part d'une déclaration de Aldo Moro qui remercie les brigades rouges, les terroristes, pour l'avoir libéré. Mais c'est de la pure fantaisie.
Une première question, Marco Bellocchio, parce que c'est vrai que je ne suis pas la seule, à l'issue de ces 5 heures, à m'être dit, en voyant les phrases que vous avez mises sur l'écran à la fin de ces 5 heures, ces faits ne sont pas réels, c'est le fruit d'une complexité, d'une écriture de l'histoire. Je ne suis pas la seule. Je sais bien, hélas, que Aldo Moro n'a pas survécu, mais je ne suis pas la seule à m'être dit, tant votre écriture cinématographique est proche du réel, à m'être dit, mais ce que nous a raconté Marco Bellocchio n'est donc pas vrai. C'est donc pas vrai ce que nous avons vu. Donc, quel est le statut de la vérité pour vous dans ce qu'on a vu?
C'est difficile de répondre parce que c'est une réponse extrêmement complexe. Dans cette série, dans ce long film, il part toujours dans des faits réels. Mais ces faits sont toujours modifiés, ils sont trahis dans la représentation, ils sont agrandis avec d'autres influences, d'autres faits. Et ça, c'est le style du film. Ce n'est pas un film historique. Il y a beaucoup d'interprétations à donner à ce film, au fait de Aldo Moro. Au cas de Aldo Moro, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées et que tout le monde raconte. Moi, je pensais plus à un roman quand j'écris le film, où raconter une série de personnages comme un roman vrai. Maintenant, je suis en train de lire Guerre et paix par Tolstoï. Donc, on a des grands personnages comme Napoléon, par exemple. et Crusher. Et après, on a les protagonistes du roman, qui peuvent être la pure fantasy. D'une certaine façon, ils se rencontrent. Et cette série, pour moi, je voulais faire cette combinaison, mettre ensemble ces deux types de personnages.
Je vous propose, Marco Bellocchio, d'écouter un premier extrait de votre nouveau film, qu'on appelle donc une série, Esterno Noté.
Ora, però, padre, arrivati a questo punto, le chiedo, al di là dell'inferno, del paradiso, dell'aldilà della luce, che cosa c'è di folle? Cosa c'è di folle nel non voler morire? Non voglio morire, sì. Lo confermo. E allora? Allora loro mi considerano pazzo. Ma io sarei pazzo se non volessi vivere, giusto? Come mi vede lei? Davvero mi vede bene?
Come?
La faccia, la mia faccia, come?
È normale, glielo ho detto.
Il suicida è il pazzo che commette peccato mortale. Ma se io mi aggrappo alla vita con tutte le forze, penso, ragiono, scrivo incessantemente dalla mattina alla sera per salvare la mia vita, che c'è di pazzesco?
Nous venons d'écouter un premier extrait de Esterno Noté. Beaucoup de questions à propos de ce film. D'abord, une sidération devant la beauté plastique, esthétique de la manière dont vous filmez le et la politique, Marco Bellocchio. C'est un sujet qui vous concerne et qui vous obsède depuis le début de votre travail cinématographique. Mais là, vous montrez les balais du pouvoir, les cercles du pouvoir, les aléas du pouvoir. Ce pouvoir qui, au moment de cette tragédie de l'enlèvement de Aldo Moro par les brigadistes, un pouvoir qui est incarné par Aldo Moro, être fragile, qui, selon vous et selon votre interprétation, essaye d'incarner une démocratie participative, on dirait aujourd'hui, qui inclut l'ensemble des partis, y compris le parti communiste, et qui représente, en tout cas, dans mes yeux de spectatrice, tel que j'ai vu votre film à Marco Bellocchio, qui représente un modèle de gouvernance, Aldo Moro, avant qu'il ne soit enlevé.
Après beaucoup d'années, les historiens reconnaissent que la pensée, les pensées d'Aldo Moro étaient très aiguës, très profondes, de perspective et très courageux aussi. Parce que il proposait un parti communiste innovant, et donc amener le parti communiste dans le gouvernement. Mais les grands pouvoirs mondiaux n'ont pas accepté. Ni les États-Unis, Kissinger
à Aldo Moro,
et c'est très proche à Aldo Moro, ni l'Union soviétique, qui voulait garder la situation instabilité comme avant. Donc Moro était un démocratien, très innovant, un anticipateur. Il voulait casser les règles. Et ça, en partie, c'était le problème qu'il avait causé et la cause de sa mort.
Autre thématique obsédante à l'intérieur de ce film, Marco Bellocchio, c'est la présence de l'Église. Et ça, c'est pas la première fois que vous attaquez à l'Église. Nombreux sont vos films qui montrent le pouvoir de l'Église sur la société, à l'intérieur des êtres, mais aussi à l'intérieur du rapport politique de l'Italie. Mais là, j'avoue que vous faites encore plus fort. Le pape est interprété magistralement par Tony Servillo. Et ce pape, il reste dans son rôle, mais qui est très, très grand au moment de la tragédie d'Aldo Moro. Mais surtout, il y a quelque chose que beaucoup de spectateurs, en tout cas français, parce que peut-être que les Italiens le savent beaucoup mieux que nous, c'est que Aldo Moro était un être profondément croyant et qu'il y a un lien d'amitié entre le pape et Aldo Moro. Et c'est vrai que le pape, on le voit jamais nouer des amitiés avec les autres hommes. Et là, cette solidité de cette amitié, cette profondeur de l'amitié est un des ressorts psychologiques de la structure scénaristique de votre film, Marco Bellocchio, je crois.
Oui, parce que le pape, il était plus âgé de Moro. Et le pape était un peu son père spirituel à Aldo Moro. Donc il a essayé de sauver la vie d'Aldo Moro. D'un côté, il a récolté beaucoup d'argent pour repayer la libération d'Aldo Moro. Mais quand les brigatistes ont refusé, il a essayé de faire l'appel, un appel aux brigatistes, et il se mit, disons, en première ligne devant les brigatistes, et ils ont demandé de libérer Aldo Moro. Le pape avait un problème d'équilibre. Parce qu'il était devant un milliard de catholiques, donc il devait faire face à ça. Vers un pouvoir politique italien qui avait une approche de ne pas accepter, de refuser n'importe quelle négociation avec les brigatistes. Et le pape a fait vraiment tout son possible, mais sans résultat dans son entreprise de libérer Aldo Moro.
Autre thématique obsessionnelle, en tout cas récurrente dans toute votre œuvre, Marco Bellocchio, c'est la puissance des femmes. Déjà dans le film que vous avez tourné sur la même thématique, Buongiorno Notte, il y avait donc cette brigadiste, cette terroriste qui nouait un lien d'empathie avec son prisonnier, en l'occurrence Aldo Moro. Et là, dans cette nouvelle version, 20 ans après, Esterno Notte, nous avons deux personnages féminins d'une puissance extrême. D'abord, nous avons la femme d'Aldo Moro, que nous ne connaissons pas ou très très mal en France, qui se révèle au fur et à mesure du film, au fur et à mesure de la tragédie, qui se métamorphose en une sorte d'héroïne grecque, de la tragédie grecque, et qui va tout faire pour essayer de sauver son mari. Et puis il y a aussi, un peu comme dans Buongiorno Notte, le personnage d'une brigadiste, puisque je crois que l'enlèvement d'Aldo Moro a été pensé par une femme à l'intérieur des brigadistes au départ. Et cette femme, vous la montrez au long de ces 5 heures comme changeant d'avis et disant à ses camarades brigadistes, non, on va pas faire un tribunal, non, on va pas faire mourir Aldo Moro, non, on va pas le faire exécuter. Et ces deux personnages de femmes sont comme deux déesses qui accompagnent le spectateur tout au long de ces 5 heures de votre série, Marco Bellocchio. Pourquoi ?
Parce que il y a deux personnages réels qui sont vraiment liés à l'histoire. Adriana Faranda, qui était la brigatiste, elle participa à l'enlèvement avec son compagnon Morucci. au nom de cette foi révolutionnaire. Et il sacrifia aussi sa fille pour cet enjeu révolutionnaire. Et donc, après, elle reproche à Valerio Morucci, son compagnon, en disant, toi, tu ne crois pas plus à la révolution, et moi, j'ai sacrifié ma propre fille. Mais, même, elle ne veut plus, à la fin, tuer, exécuter Aldo Moro. Elle change d'avis. Et de l'autre côté, il y a l'autre personnage, la femme d'Aldo Moro, une femme qui était toujours dans l'ombre. Et au moment où elle comprend que les autres sont en train d'abandonner son mari, elle se bat comme un tigre pour le libérer et le sauver, en montrant un caractère et une détermination qui est vraiment époustouflante. Deux personnages féminins opposés, mais qui ont des caractères très grands.
Que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire de Aldo Moro dans la mémoire collective des Italiens? Est-ce qu'on en parle encore dans les cafés, dans les discussions politiques?
Non.
Est-ce qu'on l'enseigne à l'histoire? Non, on l'enseigne comme événement historique dans les écoles aux enfants?
Je pense que oui.
Oui, je pense qu'il enseigne à l'école, mais le problème, c'est que... Quand au cinéma, il y avait Buongiorno Notte, moi, j'étais émerveillée qu'en Italie, il y avait vraiment une attention si grande vers un événement italien comme ça, et la politique italienne aussi. Maintenant, après 20 ans, on va voir. On va voir la réaction. Ce film très long est raconté un peu plus comme un roman, moins avec une idée de politique que j'avais avant, une idéologie, et surtout l'analyse de ces personnages qui n'étaient pas présents dans l'autre film. Moi, je suis plus que curieux et intéressé à voir, à comprendre ce qui va arriver et la réaction des spectateurs.
Merci infiniment, Marco. Merci beaucoup. Et bravo, bravissimo. Ciao.
See you.
Et c'est avec Solitaire de Donna Blue que nous allons nous quitter ce soir. Merci à toutes et à tous. Merci Marco Bellocchio. Je rappelle que votre série politique Esterno Notée sera visible sur Arte à la rentrée. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas et Marie Clément. Merci à Georges Thau qui est à la régie technique ce soir. Et merci bien sûr à Lilian Alloum qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. À suivre, avant une grande soirée de concerts au festival We Love Green, les émissions de la campagne officielle pour les élections législatives.